Europe Matin.
Le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Mais devinez quoi, ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Oui, et mon invité, Jean-Pierre Aubin, vous êtes ancien inspecteur général d'éducation nationale. Il y a 15 ans, 2004, vous alertiez dans un rapport sur l'islamisme, l'intégration de l'islamisme en France. Aujourd'hui, vous êtes une voix qui porte, une voix entendue, une voix écoutée, Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin ?
Oui, effectivement, il y a donc 15 ans, nous avions pour le faire et un constat qui était... pour les ensemble des professeurs qui difficultaient à...
Bon, oui, on n'insistait pas.
La liaison, vous l'avez compris. Alors, je vais essayer de meubler avec ce que j'avais lu en 2004, il y a 15 ans, j'ai fait mes devoirs déjà à l'époque, puisque j'avais lu le rapport de Jean-Pierre Aubin qui est intéressant, qui est passionnant. Et Jean-Pierre Aubin, ça y est, je pense que la liaison est rétablie. Merci à Jean Le Neuf. D'avoir établi la liaison, Jean-Pierre Aubin. Vous nous confirmez donc ce constat que...
Alors, effectivement, nous...
Oui, parce que là, on ne sait pas si la liaison est mauvaise ou s'il dort, Jean-Pierre Aubin. Parce que... Alors, je vais expliquer quand même aux auditeurs. Il vit dans un bled dans la Drôme.
Non, stop.
Où il n'y a pas la 5G, peut-être pas même la 4 ni la 3. Je veux dire, Jean-Pierre Aubin fait tellement... C'est Beyoncé, il ne se déplace plus, Jean-Pierre Aubin.
Voilà. Beyoncé.
On a retrouvé Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin.
Oui. Écoutez.
Belle réactivité de Jean-Pierre Aubin.
Oui. Voilà, donc, non pas Saran.
Là, c'est une malédiction de Jean-Pierre Aubin depuis 2004. Il n'est pas entendu. Non pas Saran, ni la voix de Jean-Pierre Aubin, ni la liaison.
Allez, c'est bon.
À vous, Julie.
Merci, Sonia. Oh là. Ah, c'est malin d'insister comme ça. Allez, Mathieu Béliard, à vous pour les
questions. Oui, bonjour. On a le droit de rigoler un petit peu. Merci, oui. Merci. On prie Saint-Olivier Beneuf qui revient un jour. Bonjour, Mathieu Julie. Oui, c'était le grand directeur technique à l'époque. Voilà. Où ça marchait. Alors, c'est Mathieu, il va être content le nouveau. C'est Mathieu Béliard, pardon. Bon, bonjour, bienvenue à Europe 1, bienvenue sur Europe 1, si vous nous entendez. L'info du jour, c'est la superbe, la plus belle chronique, certainement, depuis 2 ans de Fanny Agostini, qui a inventé le plumier et le cheval, qui est l'avenir de l'homme. L'info du jour, c'est Gérald Darmanin, qui a annoncé la dissolution. Allez, on redevient sérieux un petit peu, parce que tout ça n'est pas très écrit. C'est la dissolution annoncée du CCIF et de Baraka City. Oui, c'est Baraka, oui, Baraka City. Oui, c'est bizarre comme nom, ça fait un petit peu parc d'attractions. Hein. Oui, c'est super, on a été à Baraka City avec les enfants, c'est super, on a enchaîné les loopings, on a mangé des pop-corn et on a fait du manège, le kiff. Oui, ça, c'est vrai, Julie, honnêtement, c'est vrai que ça sonnait pas vraiment comme un repère de djihadistes. Et puis l'autre info, c'est la garde à vue pour le père de l'élève qui a donné, reprenez-vous Mathieu, merde, Mathieu. Je me parle à moi-même. Oui, c'est le père de l'élève qui a donné l'adresse de Samuel Paty et le prédicateur Abdelhakim Sifraoui. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas se radicaliser en cellule, vu qu'ils sont déjà un chouille radicalisé. Oui, bah, écoutez, on positif comme on peut. Allez, et puis, dernière info. Allez, dernière info, c'est le marché de Noël, des Tuileries, à Paris, annulé à cause du coronavirus. Plus de verres de vin chaud, coupé à l'eau à 12 euros le verre. Plus de pain d'épices industriel qui reste collé aux dents pendant 3 jours. Laurent Cabrol m'en parlait encore l'année dernière. Plus de Santon de Provence, made in China, à 72 euros pièce. Mais authentique. Salaud de virus, là. Oh, il nous coupe de toutes nos traditions.
Allez, c'est bon. Merci Mathieu Béliard. À demain. On va recevoir François Hollande qui, comme de nombreux responsables politiques, était présent place de la République.
Oui, un peu de sérieux.
S'il
vous plaît. Effectivement, j'étais présent place de la République, contrairement au président Sarkozy qui, lui, était en prison. Hein, enfin, quasiment menotté. Et puis surtout, j'étais, vous l'avez compris, place de la République pour envoyer un message fort aux terroristes. Pour que plus jamais ça.
Oui, enfin,
voilà, plus jamais ça.
Vous étiez place de la République en janvier 2015 pour Charlie.
Oui, c'est tout à fait exact.
Bah oui, et aussi en novembre 2015 pour le Bataclan.
Oui, aussi.
Oui, et à chaque fois pour que plus jamais ça.
Voilà.
Hein?
Oui, pour que plus jamais ça. Voilà. C'est pas faux, votre analyse. Alors, disons que j'étais place de la République pour que plus jamais ça, jusqu'à, bien sûr, la prochaine fois. Voilà, là c'est plus juste si je le formule comme ça. Voilà, oui. Je me demande si je ne vais pas acheter un petit meublé à République. C'est peut-être plus pratique
d'être sur place c'est directement. Bien, oui, allez. Oh là là. Merci, monsieur. Oula. Laurent Cabrol. Oh là là.
Encore du pain du pisco, le haut de l'hiver.
Allez, on va rester sur cet acte terroriste épouvantable. Quelle réponse pénale pour ce genre de crime ? Éric Dupond-Moretti, bonjour.
Oh oui, bonjour, madame.
Tout d'abord, comment qualifier ce crime, tout simplement ?
Madame, c'est un crime odieux, madame.
Oui ?
Ce sont les valeurs. Oui, les valeurs, j'ose dire le mot, les valeurs de la République. Que dis-je, les valeurs de la République ? C'est la République elle-même qu'on a tenté d'assassiner. Et nous ne pouvons pas, à l'heure qu'il est, rester les bras ballants devant ce que je qualifierais d'un ensauvagement, oui, un ensauvagement de la société. Car oui, quand il y a décapitation, madame, on peut parler d'ensauvagement et de barbarie.
Mais dites donc, vous êtes gonflé, vous. Vous avez engueulé Darmanin quand il a utilisé le terme d'ensauvagement. Vous aviez parlé, vous, de sentiment d'insécurité.
Oui, madame. Hein ? Oui, madame, devant vous, je fais mon coming out. Oui, je retourne ma veste. Oui, madame. Ce matin, je me suis levé avec ce que je qualifierais d'un sentiment d'avoir l'air con.
Ah, bah oui, justement, tiens, Gérald Darmanin est avec nous maintenant.
Oui, salut Eric. Bon, mon ami Eric. Donc, aujourd'hui, j'attends. Vous l'avez compris, j'attends.
Pardon, que veux-tu dire, Gérald ?
Bah, c'était déjà pas mal. Mais pas assez. Mais pardon. Gérald, c'est ça, il faut dire.
Pardon, Gérald, je suis une petite crotte.
Mais voilà, tu vois, quand tu veux, tu peux dire des trucs intelligents, tu vois.
Eh ben c'est très bien, vous êtes réconciliés. Allez, bravo, merci à tous les deux. Jean-Luc Mélenchon est dans la tourmente depuis vendredi. On lui reproche le positionnement ambigu de certains députés France Insoumise vis-à-vis des islamistes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Mais allez, voilà. Allez-y, faites votre joli métier. Allez-y, relayez les accusations des menteurs qui veulent faire de moi un complice des islamistes. Me faire ça à moi, alors que la République, c'est moi.
Oui, on sait. Enfin, quand même, vous avez défilé en 2019 aux côtés de personnalités musulmanes, notoirement controversées, qui faisaient porter à des enfants des croissants jaunes, afin de faire passer l'idée que les musulmans de 2020 subissaient le même sort que les juifs des années 30.
Oui.
Tout gonflé, quand même.
Oui. Et alors, c'est quoi ? Tout ce qu'on me reproche, c'est quoi ? C'est d'avoir manqué de subtilité ? Bon, d'accord, ok, j'ai manqué de subtilité. Mais tu m'avais déjà vu, Leclerc, être subtil, Je suis Jean-Luc Mélenchon. Je crie, je gueule, je menace. Voilà, c'est mon fonds de commerce. Je traite mes opposants de fachos. La subtilité, c'est pour les gonzesses. Je m'appelle Méluche, moi. Je m'appelle pas Laurent Vouzy.
Vous avez fait une sortie remarquée sur les Tchétchènes qui posent, selon vous, un certain nombre de problèmes.
Mais déjà, t'as vu dans quel état ils ont mis Dijon, les Tchétchènes. Maintenant, la ville, on dirait Dijon. C'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable.
Voilà. Et puis vous avez déclaré, ils sont arrivés en France car le gouvernement français, qui était très hostile à Vladimir Poutine, les accueillait à bras ouverts.
Et allez, mais qu'est-ce que c'est que ce besoin aussi de critiquer Poutine ? Ça c'est comme Hugo Chavez, sous prétexte qu'un dictateur est communiste, on lui crache dessus, et allez, c'est facile, dès qu'on est communiste, on n'a pas le droit d'être totalitaire. C'est ça l'idée ? C'est à vous d'écouter, franchement, à vous d'écouter d'avoir le pouvoir.
Allez, merci Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup. Le lavage des mains, on y pense moins, c'est une étude de l'IFOP qui révèle que depuis qu'ils ont des masques, les Français se lavent moins, alors que c'est primordial bien sûr. Tout de suite l'avis du docteur Simès.
Eh oui, bonjour Marina. Bonjour à tous, bonjour à mon collègue Jimmy Mohamed. Vous venez de le dire, une étude IFOP vient de montrer que maintenant qu'ils ont des masques, les Français sont redevenus comme avant, c'est-à-dire des crados. La crise du Covid vient de nous permettre de mieux connaître les Français. Ils ne se lavent que si vraiment il y a danger de mort. Dès qu'ils se sentent protégés par le masque, c'est bon, ils peuvent redevenir des dégueulasses.
Mais enfin, quel rapport entre le masque et arrêter de se laver ?
Eh bien, c'est très simple, ma chère Marina. Quand on a un masque, on ne sent pas tout simplement qu'on pue. Voilà.
On ne sent pas qu'on pue.
Voilà. Et quand on a le Covid, c'est encore mieux. On perd totalement l'odorat. Alors là, c'est la fête. On n'est plus obligé de prendre une douche. Vous avez compris, mon raisonnement tient la route. Allez, salut les crados.
Merci Nicolas Canteloup. Julie, à demain. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Évidemment, saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas Canteloup, de la revue de presse. 8h56.